Les hommes aux semelles devant. Une émission d'Aude Émilie Judaïque. Aujourd'hui, la déportation des communards. Paris, le 18 mars 1871. Sur les hauteurs de la butte Montmartre, le peuple de Paris se tient debout face aux soldats mandatés par le gouvernement d'Adolphe Thiers, réfugiés à Versailles. Bien décidés à défendre coûte que coûte les valeurs de la République sociale et démocratique, les Parisiens tiennent tête à l'État. Ils exigent l'établissement d'un code du travail, la séparation de l'Église et de l'État, et l'autogestion de la Commune de Paris. Ainsi commence une guerre civile qui, pendant 2 mois et demi, opposera gauche modérée et gauche radicale et fera de Louise Michel une icône révolutionnaire. Car ce soulèvement spontané du peuple sera réprimé dans le sang. Des milliers d'exécutions sommaires, de procès expéditifs et de condamnations à la déportation en Nouvelle-Calédonie, visant à vider Paris de ses éléments perturbateurs et à empêcher que leurs idées ne se répandent. C'est la guillotine sèche qui éloigne les opposants à la sûreté de l'État à près de 17 000 km de la métropole. Avec l'historien Joël Dauphiné, questionnons l'héritage des communards déportés en Nouvelle-Calédonie.
La commune que nous fondons ici sera le modèle de toutes les communes.
Le 7 germinal de l'an 79 de la République, le peuple de Paris proclame la commune et inaugure son entrée à l'hôtel de ville. Au sommet, un immense drapeau rouge. La place est pleine. C'est bien l'impression d'un champ de blé. Quelle en sera la moisson?
Paix et travail, c'est là que réside notre avenir. La République fera de la France l'ami du faible, le protecteur du travailleur, l'espoir des opprimés du monde entier.
De partout en raz-de-marée, la misère montait. Les colères entassées fermentant dans le silence depuis 20 ans grondaient de toutes parts. Paris, de plus en plus, se détachait de Bonaparte. L'aigle avait du plomb dans l'aile. La révolution appelait tous ceux qui étaient jeunes, ardents, intelligents. Oh, comme alors la République était belle.
La commune, c'est 70 jours. Hein. Quelques décisions de principe, mais très peu de choses. Hein. Mais quand même, un programme qui était relativement développé. Et dans ce programme, il y avait bien sûr, au nom d'un anticléricalisme qui, alors là, était général parmi tous les communards, la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui sera effectivement réalisée en 1905. Mais aussi la laïcisation de l'enseignement, réalisée par les lois Ferry dans les années 1880, on voit très bien ici que cette commune a pu inspirer l'impôt sur le revenu aussi, éventuellement, qui sera effectif en 1914. On voit que cette commune avait été porteuse d'un programme qui, par la suite, trouvera une concrétisation importante.
Nous sommes athées. Parce que l'homme ne sera jamais libre tant qu'il n'aura pas chassé Dieu de son intelligence et de sa raison. Nous sommes communistes, parce que nous voulons que la terre, que les richesses naturelles ne soient plus appropriées par quelques-uns, mais qu'elles appartiennent à la communauté. Il est temps que ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs prennent la lutte pour proclamer la commune révolutionnaire.
L'objectif de Thiers, c'est d'éviter toute contagion et surtout d'éradiquer définitivement, pense-t-il, les idées révolutionnaires, socialistes, qui, bien sûr, ici à Paris, avaient très largement cours. Hein. Et donc ce mouvement révolutionnaire, cette commune, va commencer au 18 mars 1871. Et elle s'achève de façon très sanglante au mois de mai, fin mai 1871, entre le 21 et le 28 mai. C'est ce qu'on appelle la semaine sanglante.
Attention, les Versaillais !
Le 21 mai 1871, vers 6 heures du matin, Paris fut éveillé par le canon. On crut d'abord à quelques fêtes des Prussiens qui entouraient Paris, mais bientôt, la vérité fut connue. Versailles attaquait. Le canon frappait à la volée. Le dieu des massacreurs a la coutume de reconnaître les siens, surtout quand il n'est plus temps. Tout quartier pris par Versailles est changé en abattoir. Les soldats ont comme les bouchers les bras rouges de sang. Les Batignolles, Montmartre, regorgent de cadavres. Versailles étend sur Paris un immense linceul rouge de sang.
On considère qu'il y a eu près de 400 000 dénonciations anonymes. Et on considère qu'il y a eu 40 000 arrestations et qu'il y a eu 12 à 13 000 jugements. Mais ce que l'on sait aussi, et c'est le plus grave, il y a eu des milliers de morts. On estime qu'il y a eu un petit millier de morts, pas tout à fait, dans le camp versaillais. Des soldats qui ont pied à pied ont tenté de reprendre et finalement ont repris Paris malgré les barricades, malgré les incendies qui ont pu ralentir l'entrée de ces Versaillais. Et de l'autre côté, c'est peut-être 20 000 morts. Mais ce qui est le plus épouvantable, c'est que sur ces 20 000 morts, on estime qu'il y en a 3 000 et qui sont morts dans les combats. Mais 15 000 et qui sont morts à la suite d'une véritable extermination, une boucherie. Hein. C'est-à-dire que les Versaillais ne faisaient quasiment plus de prisonniers. Pendant la semaine sanglante, on a massacré en masse ces républicains, pensant avoir affaire à des révolutionnaires et en se disant « bon, il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus, donc il faut les faire disparaître ».
On joue !
Le sang ne sèche pas facilement sur les pavés. La terre gorgée n'en peut plus boire. Il faut faire disparaître les cadavres. Les lacs des Buttes-Chaumont rendent les leurs. Ils flottent, ballonnés à la surface. Ceux, enterrés à la hâte dans les fosses communes, se gonflent sous la terre. De toutes les semences, le sang des martyrs est celle qui fait lever le plus de moissons.
On joue !
Alors, exécution sommaire par milliers, et puis alors des arrestations massives. Et donc, on a décidé que ce ne serait pas la justice civile qui s'en occuperait, parce que de toute façon, elle n'aurait pas pu faire face. On a créé spécialement des conseils de guerre qui, quasiment à la chaîne, ont jugé ces milliers et ces milliers de communards. Alors, en gros, sur 13 ou 14 000 qui ont été jugés, un peu plus de 5 000 ont été condamnés à des peines de prison, qu'ils ont pu effectuer en France même. Et puis ceux qui étaient les plus compromis, alors ceux-là, on s'est dit qu'il fallait en débarrasser définitivement, amener à la France. Et donc on a décidé qu'il fallait les déporter. Et là, comme la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, est devenue depuis quelques années une terre de bagne, premier convoi 1864, et donc tout naturellement, la Nouvelle-Calédonie avait vocation à recevoir ses déportés. Alors, la Guyane n'avait plus la cote dans l'administration française, parce que la Guyane avait un climat qui était peu salubre, c'était un climat équatorial, et la mortalité y était très forte. Bien évidemment, la mortalité des bagnards, ce qui, aux yeux de l'administration, n'était pas forcément très grave. Mais il y avait aussi une mortalité très forte de la part des gardiens. Et donc, la Nouvelle-Calédonie avait été en partie choisie parce que son climat y était réputé plus salubre, ce qui était vrai. Hein. Et donc, pour des raisons humanitaires, pourrait-on dire, hein, la Calédonie était bien préférable à la Guyane. Alors, on a tout à fait envisagé de faire participer les communards à la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a fait des facilités aux femmes de communards de rejoindre avec leurs enfants leur mari. Et on leur a fait miroiter à ces communards le fait que, à terme, ils pourraient bénéficier, obtenir eux aussi des concessions de terres qui leur permettraient de fonder un foyer ou de nourrir leur famille. Et donc l'idée, c'était que de s'en débarrasser définitivement et après tout de les faire concourir à une œuvre utile, la colonisation de la Nouvelle-Calédonie.
Vers 4 heures de l'après-midi, nous montons à bord de la Virginie, une vieille frégate à voile, belle sur les flots. Nous occupons la plus grande cage de tribord. Dans la cage en face sont Henri Rochefort, Henri Ménager, Passedouet, Wolofsky, et un de ceux qui, n'ayant rien fait, furent tout de même déportés. Il est expressément défendu de se parler de cage à cage, mais on le fait tout de même. Rochefort et Madame Lemel commencent à être malades dès le premier instant et jusqu'au dernier. Il y a des jours où la mer est forte, le vent souffle en tempête, le sillage du navire fait comme deux rivières de diamants, se rejoignant en un seul courant qui scintille au soleil. Je n'avais jamais vu avant la commune que Paris et quelques villes de France entrevues des prisons. Et maintenant, moi, qui toute ma vie ai rêvé de voyage, me voici en plein océan, entre le ciel et l'eau.
Le vaisseau craque sous la houle, et le matin se mêle au soir. Oh, oh,
oh. Enflez les voiles, ô tempête, plus haut, ô flot, plus fort, ô vent, que l'éclair brille sur nos têtes. Navire, en avant, en avant.
Le voyage de Henri Rochefort et de Louise Michel a eu lieu au mois de, dans l'année 1873 sur une frégate à voile qui était fort lente, d'où 4 mois de séjour en mer, ce qui est considérable, bien évidemment. Hein. Les conditions ont été les moins mauvaises possibles, pour spécialement pour ce bateau, parce que ce n'était pas Louise Michel qui était encore relativement peu connu, mais c'était surtout le marquis Henri de Rochefort qui était le polémiste le plus connu de France, de Navarre, d'Europe, du monde. Hein. Quand on disait Rochefort, tout le monde savait de qui il s'agissait. Donc c'était non pas l'ami de Victor Hugo, mais quasiment le fils de Victor Hugo, donc c'était très important. Et donc ce Henri Rochefort, c'était un journaliste, un polémiste, tel que la France en a peu connu. Et il s'est fait connaître par un petit opuscule qu'il faisait paraître régulièrement, qui s'appelait La Lanterne. Et cet opuscule se donnait pour tâche de dire le plus de mal possible de Napoléon III. Et il était devenu l'opposant numéro un, en quelque sorte, l'ennemi public numéro un du Second Empire. Par exemple, la France est peuplée de 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Ça, c'est du Rochefort dans La Lanterne en 1867. C'était un personnage vraiment très très haut en couleur. Mais quand il a été arrêté, c'est pas tellement le communard qu'on a vu surtout. Hein. C'est surtout l'homme qui a lutté contre Napoléon III, qui affichait des idées très avancées, révolutionnaires. Et bien évidemment, c'est cela qu'on lui a fait payer.
Enfin, la Nouvelle-Calédonie est en vue. Deux bras qui s'arrondissent en face l'un de l'autre, au-dessus, non pas d'une tête, mais d'une petite rade. C'est la presqu'île Ducos et l'île Nou. Entre les deux épaules, c'est Nouméa, au fond de la rade. Par la plus étroite des brèches de la double ceinture de corail, la plus accessible, nous entrons dans la baie de Nouméa. Là, comme à Rome, 7 collines bleuâtres, sous le ciel d'un bleu intense. Plus loin, le Mont d'Or, tout crevassé de rouge très aurifère. Partout des montagnes, aux cimes arides, aux gorges arrachées, béantes d'un cataclysme récent.
Alors pour ces communards qui arrivent enfin sur le lieu de leur exil, c'est un choc. Un choc à tout point de vue. Les paysages, par exemple, là. Mais les habitants, quelques-uns d'entre eux qui verront des Kanaks, sont pas habitués à voir des Noirs. On verra même quelques communards aller faire des excursions pour aller voir à quoi pouvait ressembler une tribu, une case. Louise Michel, elle est curieuse de tout. Elle est curieuse de la faune, elle est curieuse de la flore, et elle est curieuse des habitants. Elle est curieuse de leurs récits, de leurs légendes. Mais, contrairement à une légende ici fortement enracinée, elle a vu en tout et pour tout un Kanak pendant 5 ans, plus régulièrement 2 ou 3 Kanaks qui venaient tous les jours leur apporter au petit groupe de femmes la nourriture et le combustible, 2 ou 3 qui se relayaient assez régulièrement, mais dont elle ne comprenait pas tout à fait le langage parce qu'ils étaient de la côte ouest, de la région de Bouraille. Elle a vu surtout un Kanak pendant quelques mois. Et c'est à partir de ce Kanak de Lifou que, de façon très hardie, sans aucune espèce de réflexion scientifique, elle a pu établir un petit vocabulaire, mais qui n'a aucune valeur. Les véritables personnes qui ont pu établir des dictionnaires, ce sont les personnes qui ont vécu quotidiennement pendant de nombreuses années auprès des Kanaks, ce sont les pères maristes. Mais Louise Michel, donc, elle a vu très peu de Kanaks pendant 5 ans sur l'enceinte fortifiée, parce que l'enceinte fortifiée était littéralement interdite aux Kanaks.
L'administration se sert contre les évasions de Kanaks plus brutes que les autres, dressés à attacher les évadés à un bâton qu'ils portent à deux, les bras et les jambes liés ensemble, de la même façon qu'ils font pour les porcs. C'est ce qu'on appelle la police indigène. Tous les Kanaks ne sont pas corrompus de cette manière. Là, des vexations qu'on lui faisait endurer, le grand chef Ataï déterra un jour la pierre de guerre. Par une nuit de tempête, 2 Kanaks apporteurs de vivres frappent à la porte de ma case. Ils viennent me dire adieu avant de s'en aller rejoindre les leurs, pour battre méchants blancs, me dirent-ils. Alors cette écharpe rouge de la commune que j'avais conservée à travers 1000 difficultés, je la partageais en 2 et la leur donnais en souvenir. Je t'aime, Calédonie. Ton peuple est parisien.
Le chef Ataï, qui est celui qu'on considère comme le principal responsable de la révolte de juin 1878, on peut dire que ce chef s'est révolté avant tout parce qu'on voulait prendre ses terres. Et bien évidemment, les mécontentements étaient particulièrement nombreux parce qu'en dehors des spoliations foncières, il y avait aussi beaucoup d'autres griefs de la part des Kanaks. Il y avait aussi bien évidemment les corvées qui avaient tendance à s'alourdir, les réquisitions d'hommes. Il y avait le rapt des femmes, les viols des sépultures éventuellement aussi. Donc c'est l'ensemble de ces griefs qui expliquent que Ataï est passé aux actes.
En avant, pour la République, pour la Commune, pour la liberté, aux armes, citoyens.
Les communards, ils ont pris parti pour le camp de la colonisation, hein, mais ils étaient patriotes, donc pour eux, c'était normal que la France soit installée en Nouvelle-Calédonie. Quelques-uns étaient socialistes, la plupart d'entre eux non, mais quelques-uns l'étaient, mais pas au point de devenir anticolonialistes, du moins pas encore. Les déportés simples, ils étaient les plus nombreux, ils étaient 3000. On les a installés dans une partie de l'île des Pins, à l'extrême sud de la Grande Terre. Ceux qui étaient jugés les plus méritants, qui en faisaient la demande, pouvaient obtenir assez rapidement aller travailler au chef-lieu. Mais ils étaient par ailleurs quasiment libres de leurs faits et gestes. Ils se retrouvaient entre eux dans les estaminets de Nouméa. On peut dire que ces quelques centaines qui, sur les 3000, étaient à Nouméa, étaient moins malheureux que les autres. À côté des déportés simples, il y avait ceux qui étaient déjà davantage compromis, ce qu'on appelait les grosses légumes, style Louise Michel ou Henri Rochefort, ceux-là déportés en enceinte fortifiée. Enceinte fortifiée, le mot est mal choisi, il n'y avait pas d'enceinte. L'enceinte, c'était la mer. Mais ils étaient étroitement surveillés. Et au bout de 5 ans, ils pouvaient, eux aussi, gagner le chef-lieu si on les jugeait dignes et s'ils en faisaient la demande. Les plus malheureux, c'est 350 à 400 communards qui ont été mélangés au droit commun et donc considérés comme de véritables bagnards. Ils avaient le crâne rasé, ils avaient éventuellement le petit boulet et, ou le gros boulet, et ils avaient bien sûr ici des conditions autrement plus difficiles.
Le concert va commencer, dit un surveillant. En effet, voici les musiciens, ajoute un autre. Le correcteur détache un martinet de sa ceinture. Exécutez. Le correcteur lève le martinet. 1, dit le chiourme en frappant le sol du pied. Le martinet s'abat, on entend un gémissement, le corps du misérable se raidit, la peau se boursoufle. Le surveillant continue à compter. 3, le sang coule. 5, les hurlements deviennent fous. 10, des lambeaux de peau et de chair se mêlent au sang. Des spectateurs s'évanouissent. 25. On détache le malheureux qui titube. On abaisse sa chemise. On aperçoit sa face convulsée. Oui, Jean de France. Voilà ce qui se passe dans les bagnes du pays le plus spirituel de la terre. Dans ce pays qu'avec orgueil nous appelons pays modèle. Le pays de la civilisation. Le martinet à 7 branches. La crapaudine, le silo, la double boucle, les poussettes, la soupe dans un soulier, le régime de famine. Voilà, avec le reste, de quoi nous rendre fiers, n'est-ce pas?
Alors les causes de la mortalité, bon, ben, sont faciles à comprendre. Hein. C'est comme en France, la tuberculose qui a fait quand même des ravages, les maladies intestinales aussi qui ont été parfois dramatiques. Et puis ne pas oublier non plus la mélancolie, l'ennui qui a engendré des suicides relativement nombreux, des déportés qui disparaissent sans que on retrouve leurs traces. Certains disent ils ont tenté de s'évader, ils n'ont pas réussi. Parfois, ils ont laissé une lettre expliquant leurs gestes, mais les suicides ont été relativement nombreux aussi.
69 femmes de déportés sont venues sur le transport Le Fénelon, partager courageusement la misère de leur mari. Quelques mariages ont lieu à la presqu'île. Les petits-enfants grandissent sous les niaolis, plus heureux que ceux dont le seul asile avait été la maison de correction, parce qu'ils étaient fils de fusillés.
Une tentative d'évasion qui a réussi, et c'est notre Henri Rochefort qui a obtenu ce succès. Et donc, il avait des amis à terre, à Nouméa, qui se sont chargés de trouver l'oiseau rare, c'est-à-dire le capitaine de navire anglo-saxon qui, moyennant une grosse somme d'argent, et parce qu'il s'agissait de Rochefort, eh bien, consentirait à venir le prendre pour l'amener en Australie. Et donc, pour Rochefort, c'est un véritable triomphe qu'il connaît. Hein. Les journaux de l'époque lui font faire des conférences. Il est reçu à New York avec les honneurs. Et le voilà, donc, notre Rochefort qui, finalement, va rester en Angleterre en attendant l'amnistie. Et après, au bout de 2 ans, petit à petit, l'idée d'une amnistie commence à se faire jour en France. Victor Hugo au Sénat, Clémenceau à la Chambre des députés aussi, les Républicains qui commencent à devenir de plus en plus nombreux. Alors l'amnistie arrive en 1880, le 11 juillet 1880. Alors là, bien sûr, cri de joie dans toute la déportation, et l'écrasante majorité des déportés vont s'empresser de revenir en métropole, en France. Il faut imaginer Louise Michel, ici, qui arrive à la gare Saint-Lazare, et là, donc, au milieu d'un grand concours de peuple, bien évidemment pour accueillir Clémenceau, mais aussi Rochefort. C'est un véritable triomphe qui est fait à Louise Michel. Les communards rentrent la plupart dans leur foyer. Quelques-uns d'entre eux vont jouer un rôle politique non négligeable. Rochefort, bien sûr, rôle de journaliste, mais aussi rôle politique. À plusieurs reprises, il a été député. Mais la plupart des communards sont rentrés chez eux sans plus trop faire parler d'eux. On n'en entendra plus pas véritablement parler. On peut dire aussi que pour la majorité des Français, la commune, c'est loin, ils ignorent le plus souvent. On n'a pas fait grand-chose dans les manuels pour sensibiliser le jeune public à l'étude de la commune, parce que c'est pas forcément un événement dont on est très 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 fier, parce qu'il s'agit quand même de massacres particulièrement importants. Donc on a bien l'impression quand même que en France on n'a pas fait grand-chose pour libérer la parole dans ce domaine-là, que on a plutôt préféré pratiquer la politique de l'autruche ou de l'étouffoir, me semble-t-il. Alors, en Nouvelle-Calédonie, il ne reste quasiment rien. Le peu de bâtiments qui sont tous en ruine. Les cimetières, il y avait 2 cimetières, un cimetière à l'île des Pins, un autre à Ducos. Celui de Ducos a été complètement détruit parce qu'on a voulu faire passer une route à proximité. Et celui de l'île des Pins a été un petit peu réhabilité, mais d'une façon générale, très très peu de souvenirs matériels. En revanche, les idées, ici, ont fait leur chemin.
En Calédonie, il n'y a ni crépuscule, ni aurore. L'obscurité tombe tout à coup. Le dernier 14 juillet, passé là-bas, nous sommes allés chanter la Marseillaise sur la place des Cocotiers. Autour de nous, nous sentions remuer la foule sans la voir. Après chaque couplet, nous entendions les canaques pleurer dans le bruissement léger des branches de cocotiers. Camarades bâtards de toutes les nations, je vous aime. Que nos sangs mêlés fraternisent. Métissons-nous. Métissez-vous.
Merci à Joël Dauphiné, historien spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, auteur en 2006 de La déportation de Louise Michel, Vérité et légende, publié aux Indes savantes, et d'un portrait d'Henri Rochefort intitulé « Déportation et évasion d'un polémiste », édité lui en 2004 par l'Harmattan. Merci également à Julie Carly, qui a porté haut la voix de Louise Michel, toujours debout au milieu des vents contraires. Ses lectures étaient librement adaptées des mémoires et nombreux poèmes de Louise Michel. Les Hommes aux semelles de vent est une émission d'Odémilie Judaïque, préparée par Julie Briand, réalisée par Charlotte Roux et Anne-Laure Chanel, et aujourd'hui enregistrée et mixée par Alain Joubert et Philippe Bredin. La semaine prochaine, les Hommes aux semelles de vent vous donnent rendez-vous avec les rebelles des temps modernes, qui décident de ne pas rester victimes de la mondialisation et du capitalisme sauvage. Place donc aux pirates somaliens, samedi prochain, à partir de midi. Merci d'écouter France Culture et à la semaine prochaine.